Voix nue. Cette semaine, hommage à Marceline Loridan-Evans, disparue en septembre dernier. En 2012, elle s'entretenait avec Guy Lalustiger. Ce soir, le goût de la vie.
Cinéaste, actrice, écrivain, féministe, juive, enfant caché, résistante puis déportée, numéro 75.750, survivante d'Auschwitz-Birkenau, de Bergen-Belsen et de Theresienstadt, porteuse de valises, une de 343 salopes signataires du manifeste 71, amatrice de whisky, de vodka, de hash, de bebop, épouse et collaboratrice de Yuri Evans, le grand réalisateur de films documentaires, vous êtes née, Marceline Loridan-Evans, le 19 mars 28 à Épinal, et vous vivez à Paris. Vous avez traversé l'histoire du XXe siècle, et comme si votre histoire, celle de la France et du peuple juif, ne vous suffisait pas, vous êtes allée, après votre libération, jusqu'au bout du monde. Toujours du côté de l'opprimé, à sa hauteur, d'égal à égal, toujours avec le même élan vital, la même compassion et la même révolte. Donc d'où ça vous vient ? J'ai envie de vous poser, Marceline Loridan-Evans.
Mais vous avez oublié dans votre énumération une chose. Je m'appelle Marceline Rosenberg.
Rosenberg.
Et j'ai pris les noms de mes deux maris. Premièrement, parce que j'étais déjà connue dans le cinéma avant d'avoir pu divorcer une première fois de Francis Loridan. Et Evans, c'est le nom de Yoris Evans, effectivement. Je me suis mariée longtemps après que nous vivions ensemble et je l'ai ajouté à mon nom après sa disparition.
Trop tard. Alors parlons, puisque c'est pas... Parlons de votre famille Rosenberg, de vos origines, oui.
Alors, mon père est né près de la ville de Łódź, Łódź en polonais, qui s'appelle Zlupia, d'une famille rabbinique. Et son père, ils ont vécu à Łódź, et où son père était Shoichet, c'est-à-dire le sage de la communauté chargé de l'abattage des cachers des animaux, traditionnels des animaux, si vous voulez. Voilà. Et ma mère, qui s'appelait Freneta Grushkevich, et que mon père appelait à la maison Frimet, en yiddish, petit nom d'amour sans doute, était une famille de 8 enfants et ses parents étaient grossistes en produits exotiques, c'est-à-dire des cacahuètes, sans doute à l'époque, des bananes, des choses comme ça.
Et ils sont venus alors quand en France et pourquoi ?
Ils sont venus après la guerre de 14-18. Au moment de l'indépendance, un peu de temps après l'indépendance de la Pologne, pour le fait qu'on ne trouvait plus de travail, pas de travail en Pologne, qu'il y avait des quotas dans les universités, dans les écoles contre les Juifs, et que le gouvernement Pilsudski avait demandé que 2,5 millions de Juifs s'en aillent. Il y a eu une grande vague d'immigration vers l'Amérique. En fait, mon père partait pour l'Amérique. Et c'est arrêté en France, dont il avait
connaissance. Où vous êtes née, Marceline Loridan-Evans ?
Moi, je suis née à Épinal, dans les Vosges, le 19 mars 1928. Et je suis née tout de suite, rousse, gauchère et juive.
et il me semble, je me souviens que vous m'avez dit un jour que votre père avait un grand amour pour la France, qu'il lisait Balzac et Zola en yiddish.
C'est vrai, mon père avait il aimait les auteurs français. Et en plus de ça, la France bénéficiait d'une réputation extrêmement positive du fait de la réhabilitation de Arthur Dreyfus, de la reconnaissance de la France de sa faute, de son erreur très grave.
Mais vos parents, Marceline Loriden-Evans, à la maison, ils parlent yiddish. Mais votre langue maternelle, c'est donc
français.
Finalement le français.
Ils parlaient yiddish, ils parlaient russe. Ils avaient des langues secrètes, oui. Le russe, le polonais. Et mais avec nous, il voulait absolument uniquement parler français. Mmh. C'était un moderniste, mon père. C'était un sioniste. Il a pensé avec beaucoup de jeunes de l'époque que du moment que tout le monde nous rejetait, tant qu'un peuple n'a pas de pays, il n'est pas reconnu. Et dans toutes les prières juives, c'est l'année prochaine à Jérusalem.
N'empêche, Marceline Loriden-Evans, que vous avez eu une éducation républicaine.
Ah ben mon père, oui, il nous a donné une éducation traditionnelle à partir d'un certain âge. Mais oui, mes parents étaient vraiment... ils n'étaient pas athées, ils fêtaient les fêtes juives, mais ils ne nous encombraient pas la tête avec la religion, non. Pour eux, ça avait été un pas en avant énorme, à l'image de la séparation de l'Église et de l'État en France au début du siècle. C'était une libération. Mon père sortait le samedi en cachette de son père et ne voulait pas devenir choirette. Il ne pouvait pas faire des études puisqu'il y avait, à cause du numerus clausus polonais, ils sont partis pour se faire une vie ailleurs.
Donc finalement, Marceline Loriden-Evans, vous avez eu une enfance, une jeunesse tout à fait tranquille en France?
Oui, je pense, oui. Puisque je me souviens toute petite de traîner dans les marchés où ma mère avait un banc à une époque. Et je me souviens même ce que je disais. Parce que ma mère devait dire 4 francs la paire, ou elle vendait des chaussettes, et moi je disais 4 chipucci paire. Je m'en souviens.
Et donc, le monde chez vous s'effondre, finalement, relativement tard, le 10 mai 40. Votre famille, Marceline, avait une notion avant de ce qui va lui arriver?
Ah ben c'est évident, parce que... Il y avait eu la nuit de cristal, il y avait eu des manifestations en France anti-juive. Oui, on savait. Mais moi, j'étais trop petite.
Oui.
Je sentais des rumeurs. J'ai pris conscience de la guerre dans la guerre. Ça a commencé en 39 quand on nous a distribué des masques à gaz. Et les premiers bombardements. Quand on est en pleine nuit, obligé... de descendre à la cave pour se protéger, où tous les gens du coin sont dans la cave. On entend des bombardements, ça c'est dans l'hiver 39.
Et vous vous souvenez, Marceline Loriden-Evans, que vous avez fait le 10 mai 40, quand la drôle de guerre prend fin avec le Blitzkrieg?
C'est très difficile pour moi de me souvenir de la date précise. Je me souviens en tout cas que j'étais dans une sorte de village où tous les gens levaient le bras à la manière des fascistes pour Pétain. Ça, j'ai vu. Et donc, c'était au cours du parcours de l'Exode qui a dû commencer. Est-ce que ça a commencé avant mai 40 ou après mai 40? À mon avis, c'est avant, parce que les bombardements sur cette région étaient considérables. Non, c'est avant. Parce que sinon, pourquoi tous les gens auraient été sur les routes? Les Allemands avaient déjà pénétré, mais ils avançaient plus ou moins lentement. Il y avait eu une marge de temps entre, puisque moi j'ai quitté l'école aussi.
Donc votre exode commence par, Marceline Loriden-Evans, par Limoges.
Épinal, Limoges, c'est-à-dire en voiture avec des matelas sur le toit, 4 enfants, dont ma sœur aînée... Mon petit frère, ma petite sœur et mes parents, et à travers un périple qui durera plusieurs semaines avant d'arriver. Et donc, bombardé sur les routes, et obligé de se cacher, des choses où ne trouvons pas d'essence pour continuer, ou ma mère travaillant dans un restaurant, servant dans le restaurant pour qu'on puisse manger. Non, c'était très compliqué. C'est pas un jeu, tu pars et en avant tout, non. C'était déjà la guerre, mais en même temps, il y avait comme ça une espèce, pour une gamine de 11 ans, comme une comme une aventure.
Oui.
Voilà, où il arrivait plein de trucs, tout d'un coup tu découvrais un monde. Voilà, c'est bon. Je me souviens à Limoges, il fallait aller faire la queue pour avoir des litres d'huile, c'était les enfants qu'on envoyait. Et pour moi, Limoges, ça a été aussi un moment merveilleux, parce que comme il y avait beaucoup d'enfants juifs, on avait essayé de créer tout de suite une sorte d'association qui réunissait tous ces enfants dans la journée pour qu'ils ne traînent pas dans les rues, et où j'ai appris des chansons que je sais encore. C'est là où j'ai appris la tikva. Voilà. Donc moi, j'ai toujours eu ce désir des autres.
Mais
donc
on vous
j'étais
place,
pas malheureuse, là.
Oui, on vous place, après un temps, il me semble, si Marceline Loridan avance, on vous place, vous et vos frères et sœurs, ou pas certains de vos frères et sœurs, dans une pension. On vous cache, vous êtes enfant caché.
Oui, c'est le moment où, oui, il commence à avoir des bruits. On doit être vers octobre 40, les lois juives sont déjà sorties. Même si on ne les connaît pas, parce qu'il n'y a pas d'informations qui circulent comme aujourd'hui, on en connaît certains. Il y a des publications dans les journaux. Oui. Et donc, mes parents sont là avec quatre. Ma sœur aînée, bon, elle a 16-17 ans, ça va. Mais moi, je suis une gamine. Oui, on est trois petits-enfants. Donc, ils nous placent dans une maison à 20 km, une pension de beaucoup d'enfants. Handicapés et aussi d'enfants de prostituées.
Et vous apprenez là-bas les prières catholiques.
Mais même aujourd'hui, je peux vous les réciter par cœur.
Oui, vous avez cette anecdote, Marceline Loridan Evans, quand vos amis font baptiser à l'église à Saint-Sulpice leur garçon.
Ah
il y a
ouais.
Cette anecdote.
Ah oui, oui, c'est incroyable, mais il y a quelques années, là.
Oui.
J'étais invitée à une espèce de grand baptême d'un cinéaste allemand ayant épousé une Française qui s'appelle Peter Serre.
Oui.
Ils avaient adopté un petit enfant colombien qu'ils sont allés chercher et ils l'ont fait baptiser à Saint-Sulpice. Alors il y avait plein de cinéastes, il y avait Radou, machin, il y avait plein de cinéastes qui étaient là. Et le père leur dit, le curé leur dit... Vous allez chanter avec moi, tout ça. J'étais la seule à chanter. Il n'y en avait pas un qui connaissait les textes. Alors il est venu vers moi et dit, ah mais vous les connaissez au moins. J'ai dit, ne vous faites pas d'illusions, vous savez, je les ai appris pendant la guerre parce que je suis juive. Il est parti d'un rire réel. Et les autres étaient sidérés, et moi je connaissais les prières. Je les connais encore.
C'est une blague juive.
Oui, absolument.
Blague juive d'enfant caché.
Oui, oui.
Et après, Marceline Loridan Evans, votre père achète un château dans le sud à un général.
Oui, mon père a acheté vers la fin, à mon avis, ça doit être de début 41 ou fin 40, cherche un endroit de quoi mieux protéger ses enfants. Et se dit à la campagne, voilà, mais il oublie que c'est un château. Et donc, tout d'un coup, en mars 41, ma sœur aînée vient nous chercher dans cette pension, où nous étions très mal d'ailleurs. Et mon père, à la gare de Bolène, nous attend avec un cabriolet, un cheval blanc.
Comme
c'est quand même
fait.
Assez étonnant.
Oui. Oui.
Et pour la première fois de ma vie, j'ai une chambre à moi toute seule. C'est génial. Oui.
Et j'ai lu, et je trouve ça incroyable, Marceline Loridan Evans, qui se met à la culture de la vigne et fabrique un Côte-du-Rhône.
Oui. Pour fabrique du Côte-du-Rhône. La marque existe encore.
En quelle année?
En 41.
C'est incroyable.
Du vin, des asperges, des abricots, des pêches. Je découvre les légumes du sud, je n'avais jamais vu ni mangé d'aubergines, de courgettes, d'asperges dans le nord. Dans le nord, on mange des pommes de terre. Ouais, il y a l'Espagnol qui vend des oranges et des bananes. Donc on mange de temps en temps des oranges et des bananes. Mais, ou des prunes, ou des myrtilles, ou d'autres fruits, des pommes.
Il rêve vraiment... Il rêve son rêve d'assimilation, là, à ce moment-là.
Moi, je crois
de bonheur terrestre.
Moi, je crois... Non. C'est pas un rêve d'assimilation.
Il devient châtelain.
C'est le sentiment qu'il est dans un endroit, c'est la première fois de sa vie, qu'il est vraiment avec ses enfants. Parce qu'il travaille tellement nuit et jour qu'il n'est jamais là. Et ma mère, pareil.
Et une autre année.
C'est sans doute le meilleur moment que mes frères et sœurs et moi-même, bien qu'à l'époque j'étais dans la rébellion et je ne m'en rendais pas tellement compte, nous étions heureux ensemble.
Ouais. Et puis il y a une autre anecdote qui me semble aussi tout à fait extraordinaire, c'est qu'en 1942 arrivent en Bolène des Juifs qui avaient fui Paris, et parmi eux, Marceline Loridan-Evans, les Azous qui vous éblouissent.
Donc vous organisez. C'était un swing qui était loin du swing américain, mais quand même.
Donc Marceline Loridan-Evans, vous organisez, votre père organise pour toute cette assemblée d'émigrés, de réfugiés, des bals, des fêtes.
Oui, à la maison, le samedi ou le dimanche, ils venaient tous danser. Voilà, il y avait à manger, mon père. Leur donner même de quoi emporter chez eux parce qu'ils en avaient besoin. Oui, oui. Et puis il y avait des gens de Bolène eux-mêmes. C'était pas un homme qui faisait des différences sociales du tout.
Puis hélas, arrive quand même le 29 février, Marceline Loridan-Evans, 44.
Oui.
Et la veille, votre sœur aînée Henriette, qui était dans la résistance, vous prévient de ne pas dormir au château la nuit suivante.
Oui, c'est vrai.
Et vous avez dans votre livre « Ma vie Balagan résumé l'arrestation dans un chapitre que vous appelez « Je me souviens » en hommage de Pérec, qui est sublissime, et je voulais vous demander si vous pouvez lire un court extrait de ça. D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure que Pérec était... un amant ?
Il a tenté de l'être. Disons, il existe un livre d'ailleurs écrit par un de ses amis, pour ne pas m'appeler Marceline, il m'appelle Hermeline. Ah. Alors, c'était un hommage à Pérec. Je me souviens de la nuit qui tombe. Je me souviens du dernier pot-au-feu préparé par ma mère. Je me souviens de notre fatigue, de la migraine de ma mère et de l'insistance de ma sœur qui nous poussait à partir. Je me souviens de la décision de rester, une nuit encore. Je me souviens, je vais me coucher la première, au premier étage, et je m'endors. J'ai 15 ans. Je me souviens, je suis brutalement réveillée par mon père. Vite, vite, Marceline. Ils sont là. À tâtons dans le couloir, j'attrape tout ce qui me tombe sous la main. Je me souviens, toujours dans le noir, les cris. Ouvrez, ouvrez ! Les hurlements, le portail de la cour intérieure ouvert par Monsieur Roussier, notre fermier qui habite juste derrière. Je me souviens des coups violents sur la porte, des tirs des mitraillettes et de ma fuite éperdue au milieu des cris, des hurlements. « Ouvrez, ouvrez, vous êtes fait !» Je me souviens que je cours d'un escalier à l'autre. Je me souviens que je n'arrive pas à descendre du premier étage tant les tirs se précisent. Je suis seule dans la maison. Il me faut à tout prix sortir pour gagner la porte dérobée au fond du parc qui donne sur les bois. Je me souviens, la peur au ventre, je parviens à sortir de la maison. Mon père, mort d'inquiétude, m'attend derrière un arbre, à l'orée du parc. Je me souviens n'avoir vu que lui. Nous courons comme des fous vers le fond du parc, dans le noir. Je me souviens. Je suis devant lui, je tire le verrou de la porte. Je dis, « Ça y est, papa, nous sommes sauvés. » Derrière la porte, un homme, un milicien français, revolver au poing, une torche dans l'autre, nous dit « Halte où je tire !» Il donne de violents coups de crosse sur la tête de mon père.
C'est un chapitre bouleversant sur votre arrestation.
Ce texte, je l'ai écrit, c'est pour un témoignage à Bolène sur la résistance dans cette partie de la France.
Et de là, pour revenir à votre histoire, de là, on vous amène à Drancy, donc, Marceline Loridan Evans.
Ah non, c'est plus compliqué que ça.
Plus compliqué
quand même. Oui, je vais en prison à Avignon. On est interrogé par la Gestapo longuement. Ils essaient de tirer des informations. Nous, on ne dit rien. Ma sœur arrive à ma sœur aînée était arrivée à s'évader de quand on a été arrêté avec ma mère. Pas de cette porte, mais en sautant des murs plus loin. Et elle a pu. Ils ont pu sauver les deux enfants parce que la Gestapo a envoyé quelqu'un chercher les enfants après. Mais la personne qui les cachait, parce que ça a été dénoncé, a refusé de les donner. Et entre-temps, s'est enfui avec les enfants. Quand ils sont revenus, il n'y avait plus personne. Mais elle a mis plus de 24 heures à trouver des lieux d'hébergement, un lieu d'hébergement pour deux petits-enfants.
Donc on prend Marceline Loridan Evans, vous et votre père.
Oui, et aussi deux jeunes filles qui dormaient à la maison pour se cacher avec nous la nuit même. Parce que nous devions partir ailleurs.
Et commence donc ce qu'on peut appeler votre voyage vers la solution finale.
Oui.
Vous avez dit, ça m'a beaucoup frappé une fois, Marceline Loridan Evans, vous m'avez dit que Drancy était un lieu comme les dernières minutes de la vie. Vous pouvez expliquer ça?
C'était pas vrai pour moi parce que j'étais trop petite fille. À 15 ans, j'étais vraiment encore une très gamine innocente qui savait peu de choses. Mais pour les jeunes filles qui avaient 19-20 ans, oui. Ou pour les garçons aussi. Il y avait des fleurs dans tous les coins de Drancy. Toutes les filles, elles avaient un petit copain. Mais pas moi.
Mais parce qu'ils savaient, parce qu'ils voulaient encore goûter de la vie, c'était la vie qui prend.
À mon avis, il y a quelque chose qui est semblable à ce qui se passe à Tel Aviv aujourd'hui. Le danger est si réel, si imminent, qu'il bouffe la vie par tous les pores de la peau.
Oui, si je vous pose cette question, Marceline Loridan Evans, c'est parce que j'ai l'impression, en suivant votre carrière, en lisant votre livre, mais aussi parce que je vous connais, qu'il y a, malgré tout, toujours un élan vital incroyable et dans chaque moment de la vie, vous trouvez soit de la joie, du bonheur, et d'ailleurs vous dites, on va venir à ça plus tard, vous dites que le plus grand moment de bonheur et d'amour, vous avez éprouvé à Auschwitz. Et jusqu'à là, on voit que partout, vous êtes dans la plus grande misère, si c'est en fuite, si c'est en cavale, si c'est en cachette, et même à Drancy, vous grattez, vous trouvez encore un petit peu de bonheur, d'élan, de joie de vivre. Il y a cet élan vital chez vous qui marque toute votre vie.
L'élan vital, évidemment, tout le monde ne la possède pas de la même manière. Mais il est en chacun de nous, avec la seule différence qu'il y a ceux qui le connaissent et qui l'ont éprouvé, parce qu'ils ont dû l'éprouver ou ils ont été forcés de l'éprouver, et les autres qui ne le connaissent pas d'eux-mêmes. Moi, j'ai été obligée de l'éprouver presque toute ma vie. Et c'est quelque chose qui n'est jamais raisonné de ma part, qui est une sorte d'instinct qui n'est pas toujours conscient, qui me vient comme ça, dans la rapidité de l'esprit, ou face à une situation concrète, et qui est toujours là. Mais je sais d'où ça vient. Et je sais que je l'ai, et je sais aussi quand il diminue. Et ça, c'est la force de beaucoup d'anciens déportés. Parce que d'une certaine manière, on n'est pas comme les autres. Ils s'en rendent pas tous compte. Tout le monde n'en est pas conscient. Mais ils ont une... S'ils sont revenus, c'est parce qu'ils étaient plus forts que les autres.
Merci Marceline.
Oh, mais je vous en prie.
Vous retrouverez demain la suite de cet entretien enregistré en 2012 entre Gila Lustiger et Marceline Loridan-Evans, disparue en septembre dernier. À voix nue. Réalisation Anne-Pascale Desvignes, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.